Bonjour à tous et merci de nous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage d'en parole aux auditeurs. Cela fait 20 ans aujourd'hui que la RDC commémore la marche dite des chrétiens organisée le 16 février 1992 pour exiger au pouvoir en place la réouverture des travaux de la Conférence nationale souveraine. Cette conférence était considérée par les manifestants comme une voie vers la démocratisation de la RDC après 30 ans d'un régime jugé autocratique et dictatorial. La marche a été violemment réprimée par les agents de l'ordre. Les bilans divergent selon la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme et elle fait état de nombreux blessés et des 105 morts. L'archidiocèse de Kinshasa publia une liste de 16 blessés graves et de 21 personnes mortes par balle ou suite à une blessure par balle. 20 ans après, quels souvenirs gardez-vous de cette marche? Nous en parlons avec M. l'abbé Richard Mugaruka, analyste politique et professeur à l'Université catholique du Congo. Cette émission est réalisée par Marie-Chantal Lumba et Willy Akonda sous la supervision d'Emilio Ndiaka et Alain Goy est à la technique fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Cela fait 20 ans, jour pour jour, que la RDC commémore la marche dite de l'espoir. À Kinshasa et dans les principales villes du pays, à l'appel du comité laïque de coordination, cette marche avait connu la participation des hommes et des femmes, des milliers de fidèles catholiques, protestants, musulmans, kimbangustes, des églises de réveil, des églises indépendantes, ainsi que des membres de la société civile, des chercheurs, enseignants, employés syndicalistes, responsables d'ONG, agriculteurs et étudiants, et ils réclamaient la réouverture des travaux et de la conférence nationale souvenir. Quel souvenir souveraine, quel souvenir gardez-vous de cette marche? Appelez-nous au 081-890-6315. Pour intervenir en direct, 081-890-6315, mais vous pouvez également nous envoyer votre point de vue par SMS au 081-973-9650. 081-973-9650. J'insiste pour dire que c'est un numéro pour les SMS, il ne faut pas appeler par ce numéro. Mais vous avez beaucoup de possibilités pour réagir aussi. Ceux qui ont accès à l'Internet peuvent également le faire à l'adresse pa@radiocapi.net, mais aussi nous déposer un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, la page avec le logo officiel de Radio Capi, et votre commentaire sera récupéré et votre point de vue sera exploité dans cette émission. Nous avons Dr Richard qui nous appelle de Kinshasa, mais lisons d'abord cet avis que nous avons reçu de Justin, qui est à Kikwit dans la province de Bandundu, qui dit ceci: en commémorant cette date, nous chrétiens devons nous non seulement prier pour ceux qui sont morts, mais aussi nous devons dénoncer les antivaleurs qui rongent la RDC en acceptant nos défauts comme le Christ a accepté sa croix. Si tous les soi-disant chrétiens étaient des vrais chrétiens, au regard de leur nombre, la RDC serait en paradis. Roger qui est à Bukavu dit ceci: la situation en 92 est restée la même en 2012. Un peuple qui réclame qui la vérité devant un pouvoir répressif, ce qui est toute la démocratie, qui veut réellement le pouvoir. Nous avons en ligne Dr Richard, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tout le monde.
20 ans après, que gardez-vous, quel souvenir gardez-vous de la marche dite de l'espoir, la marche des chrétiens de 1992?
Merci beaucoup. Alors, voici ce que j'ai gardé. La première chose, le peuple en avait ras le bol. Parce que il se considérait comme le crachoir des cracheurs. Ces cracheurs avaient confisqué le pouvoir sous une, entre guillemets, une démocratie qui était plébiscitée à cette époque-là. Ce que je retiens en deuxième lieu, vous avez donné un bilan de 115 personnes qui étaient tuées. Ces personnes sont dans les oubliettes. Or, ils ont un sanctuaire qu'on appelle le stade des martyrs. des martyrs qui sont tombés parce qu'ils réclamaient la réouverture de la CNS, qui était une tribune pour que les Congolais se parlent, afin qu'ils sortent des chaînes de la dictature. 115 personnes méritent d'avoir une place là où on a répertorié leur nom, afin qu'on sache qu'effectivement, c'est en leur faveur. Parce que, au niveau du stade des martyrs, là, vous savez que Kimba, Bamba, Mahamba et Anani, Évariste Kimba plutôt, étaient pendus. Alors, pour éviter la confusion, il faut qu'une plaque soit là, reprenant les noms des victimes. Troisièmement, ce que j'ai retenu, même si les hommes politiques véreux avaient craché sur les décisions de la CNS, parce que cette simple victime qui était tuée, qui réclamait la réouverture de cette conférence, donc le débat direct entre les cracheurs et les cracheurs et les crachoirs, les décisions de la CNS sont en train d'être exécutées en catimini. Je prends par exemple le dossier des malakis et assassinats. J'ai appris de la bouche du ministre sortant de l'information d'Amber Mende, du gouvernement passé, que le dossier bien malaki assassinat dans son volet bien malaki était exécuté à hauteur de 1 milliard 800 millions de dollars qu'on paye aux victimes qui étaient spoliées de leurs biens, sans que ce dossier soit passé par la justice. C'est encore une bévue grave. Voilà, voilà ce que je retiens. Est-ce que les chrétiens, compte tenu de tout ça, ceux qui réclamaient cette marche, sont aujourd'hui honorés? C'est à nous maintenant de regarder. Je crois qu'ils ne sont pas honorés. Parce que leur maudit, par exemple, n'est pas payé. La législature qui est passée, que nous croyons être la continuité par rapport à la démocratie, n'a pas payé leur maudit.
Merci.
Et maintenant, le maudit était un contrat social de la mandature qui vient de terminer.
Voilà. Merci, docteur Richard. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous pensez que la mémoire de ceux qui, des victimes du 16 février n'a pas été honorée? Vous pensez qu'il serait mieux qu'on puisse se souvenir de ceux qui sont morts le 16 février 1992? Merci beaucoup. Nous avons Roger qui est à Kananga et Sylvain qui est à Bounia. Nous allons revenir à vous, le temps d'accueillir notre invité qui vient de se faire son entrée dans ce studio.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements du Royaume-Uni, du Suède, du Belgique, des États-Unis, des Pays-Bas, des Suisses et d'Allemagne.
Voilà, monsieur l'abbé Richard Mugavuka, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au studio des Radio Capi. Nous avons commencé cette émission qui dès ce jour, le 16 février, on commémore le 20 ans de la marche dite des chrétiens, la marche de l'espoir. La question que nous avons posée à nos auditeurs, c'est le souvenir qu'aujourd'hui, 20 ans après, ils gardent de cette marche. On a déjà commencé avec les auditeurs. On va écouter deux autres auditeurs. On va revenir à vous pour commenter les points de vue des auditeurs par rapport à cette marche. Nous avons eu le docteur Richard de Kinshasa. Pour lui, il pense que ce soit les chrétiens aujourd'hui, que ce soit la classe politique, personne aujourd'hui n'honore. On ne se souvient plus de ceux qui sont morts. Il serait mieux qu'on puisse avoir une plaque reprenant les noms des victimes de la répression du marche du 16 février 1992. On va écouter Roger qui est à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour Roger.
Oui, bonjour. Monsieur le journaliste.
Okay, gardez-vous. Quels souvenirs vous gardez de la marche des chrétiens de 1992?
Vraiment, cette date me rappelle beaucoup de choses, vraiment, monsieur le journaliste. Et pourquoi à ceci, je demanderai aussi au peuple congolais, comme notre frère vient de dire à Kinshasa, là, il faut premièrement honorer cette commémoration. Car aujourd'hui, nous trouvons cette date qui nous rappelle beaucoup de choses. Et grâce à ces gens-là qui se font victimes pour le Congo. C'est-à-dire aussi, M. le journaliste, nous devons aussi comprendre ces choses ainsi par l'esprit, ainsi que par les oreilles de nos prochains. Il faut prendre des mesures. Et si cette commémoration aujourd'hui parvient à être célébrée au Congo, et que les gens ne parviennent pas à honorer cette date, cela peut aussi influencer du cœur dans le sens que le Congo n'est pas organisé. Maintenant, la préoccupation comme qui est ce qui est question, je voulais poser aussi à notre invité. Je ne sais pas si vous me suivez.
Et oui, allez-y, on vous écoute poser la question.
Oui, oui, ma question est la suivante. Si cette célébration ou bien cette commémoration d'aujourd'hui passe, quel sera maintenant l'état d'un peuple congolais concernant ce qu'on se souvenait à la fois passée?
C'est-à-dire que pour vous, Roger, si on peut bien vous comprendre, vous pensez qu'il faut d'abord que les gens puissent chaque fois, qu'ils puissent honorer la commémoration, c'est ce que vous dites, mais la question que vous posez à l'invité de savoir, si aujourd'hui les gens ne parviennent pas à commémorer la date du 16 février 92, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? C'est que je veux dire, si on oublie de commémorer, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? On pourra améliorer et puis poser la question à notre invité, mais dis-nous, on a compris l'esprit de votre question, merci, vous êtes à Kananga. Au Kassai occidental. Nous avons Sylvain qui est à Bounia, en province orientale. Bonjour Sylvain.
Salut Pierrot, bonjour à tous les auditeurs. Je salue à passer la Béricard pour Farouka pour ces grandes actions.
On vous écoute, Sylvain, par rapport à la marche. Qu'est-ce que vous gardez, vous, comme souvenir de cette marche?
Une chose qui est malheureuse, je dois d'abord appeler aux auditeurs de la radio Capi. Les dates suivantes, le 4 janvier, le 16 et le 17 janvier, et pourquoi pas aujourd'hui, le 16 février 1992. Je suis pratiquement à troisième primaire, qui est notre enseignant, je me souviens bien, nous explique comment un gouvernement s'est attelé à massacrer ses concitoyens, ses compatriotes. Je crois que c'était un sentiment de désespoir. Et pourquoi tout simplement ces situations? La conférence nationale souveraine était l'affaire des Congolais. Et si certaines décisions étaient prises dans cette assise, moi je ne pensais pas qu'à l'époque, il a fallu que les Congolais, les compatriotes congolais, puissent encore rendre des larmes. Et chose qui est vue. Aujourd'hui, plusieurs gouvernements se sont succédés depuis 1992 jusqu'à ce jour. Il semble qu'on ne met pas en mémoire ce grand travail, ce qui suit cette définition et cette capacité à vouloir changer la situation dans ce Congolais. Et c'est le journaliste. Je crois que les historiens aujourd'hui doivent tous se mettre à genoux et pleurer, puisque très souvenant de la requête qui est portée ces chrétiens au gouvernement congolais pour le bien des Congolais. Mais que malheureusement, les frères, les pauvres frères, les prenaient pour les méchants. Moi, je pense, si on avait de la sagesse aujourd'hui, il a fallu qu'on demande pardon au peuple congolais pour cette date, 16 février 1992. Et je vais finir par dire ceci, monsieur Thiro. Je crois que les dates que je venais de citer là-dessus révèlent l'histoire importante de la République. En telle affaire que, si l'on se souvient quotidiennement de ces dates, l'on se mettrait bien à servir le peuple congolais et non pas à se servir. Puisque la gouvernance actuelle trouve qu'en réalité, on n'a pas souci des Congolais, mais on a souci de se servir. Et donc, on oublie des moments importants, tel qu'est la date 16 février 1992.
Merci.
À la prochaine prochaine, je vais souhaiter ceci, que le gouvernement puisse quand même donner de l'importance à ce que permet l'âme.
Merci. Voilà, merci beaucoup Sylvain. Vous pensez qu'il serait mieux qu'on profite de cette date pour demander pardon au peuple congolais, que les gens se souviennent de ceux qui ont versé le sang pour le processus démocratique. Nous avons aussi le message des Kakoulé Lanzo qui dit ceci, la journée de ce jeudi doit être une journée de prière et non une journée émaillée par des craintes, des troubles et des désordres comme on le voit aujourd'hui. C'est Daniel Koulosoufi, c'est si bravo à l'Église catholique qui s'est marqué l'histoire en appelant les chats par son nom. qu'avait le capitaine qui est à Boutembo dit ceci, je pense que cette marche n'avait pas atteint son objectif. Aujourd'hui, 20 ans après, les laïcs organisent une autre marche. Je doute qu'elle puisse atteindre son objectif, par exemple la démission du bureau de la CENI. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Nous allons donner la parole juste après quelques questions de notre invité pour commenter le point de vue des auditeurs par rapport au souvenir qu'ils gardent de cette marche.
Parole aux auditeurs.
Abbé Richard Mugaruta, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Ils se dégagent de leurs interventions qu'on semble avoir oublié les victimes du 16 février 92. Ils ne sont pas assez honorés, pensez-vous, qu'ils ne sont pas assez honorés aujourd'hui?
Oui, merci pour la question. Je voudrais d'abord souligner que dans toute société humaine qui se dit civilisée, et je pense que dans notre société, on estime que les Congolais sont civilisés, la personne humaine est sacrée. Cela est consigné dans la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Mais qu'est-ce que nous constatons en réalité? En réalité, nous constatons que depuis pratiquement l'indépendance, il s'est installé au Congo ce que j'appelle la culture de la mort au sein même de l'État, au sein de l'appareil étatique. Il vous souviendra que lors de la conférence nationale souveraine, il y a eu une commission qui s'est occupée des assassinats et des biens mal acquis, et cette commission n'a jamais été examinée parce que on a eu peur de faire partir de manière judiciaire, de manière légale, de manière que je peux appeler réglementaire, celui qui était au pouvoir et qui s'était rendu coupable de tel crime. Le fait qu'on n'a jamais inquiété les assassins, le fait que l'on a passé sous silence les assassinats et les détournements qui ont été commis pendant la première législature et pendant la deuxième législature, pendant la première et la deuxième république, cela a d'une certaine façon fait jurisprudence. Et alors, nous avons commis des massacres à grande échelle depuis lors. D'abord avec la guerre de la libération, ensuite avec la guerre d'agression. Tout cela a été émaillé des crimes et des assassinats ignobles, monstrueux et nombreux. Mais là encore, alors que le nombre total des morts a été estimé à 6 millions, à plus de 6 millions, et que cette guerre, ces rébellions ont été considérées comme les massacres les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de suite. On a vu ces criminels-là admis à conquérir et à partager le pouvoir, et ils y sont jusqu'à présent. C'est ainsi que on a instauré ce que j'appelle la culture de la mort, et où donc la vie humaine, que la Constitution déclare comme sacrée, est devenu banalisé. On est entré dans la culture de la mort et les gens tuent, et les gens volent, les gens violent, et sans que cela prête à aucune conséquence judiciaire et à aucune sanction. Je pense qu'on ne peut pas construire une société humaine, une société civilisée, si l'on ne commence pas par le droit des droits. Le droit le plus fondamental de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie. Et une société qui ne respecte pas ce droit à la vie, une société qui donne une prime aux assassins, une société qui permet à des criminels de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à ces gens-là, en même temps, la permission de pouvoir maintenir ce pouvoir par les moyens avec lesquels ils l'ont conquis, c'est-à-dire par le moyen du crime. Et ça, c'est une première chose que je voudrais dire, qui est capitale. Le respect de la vie est constitutionnel, et tout quiconque porte atteinte à la vie humaine devrait être poursuivi et jugé par la justice du pays. C'est la meilleure façon de sauvegarder
la mémoire,
le socle même de la toute société humaine. En deuxième lieu, je voudrais signaler que un peuple qui n'a pas de raison pour lequel il peut mourir, n'a pas non plus de raisons pour lesquelles il peut vivre. Qu'un homme qui n'a pas de raisons pour lesquelles il peut mourir n'a pas de raisons pour lesquelles il peut vivre. Le martyr, le sacrifice suprême, a toujours été l'expression, je veux la plus sublime, de l'humanité et de l'attachement à la liberté et aux valeurs humaines, les droits humains fondamentaux. Et donc, notre peuple a cultivé malheureusement la culture de la peur. Nous n'avons pas le sens du martyr. Voyez comment font les autres peuples en Tunisie, en Égypte et maintenant en Syrie, Bahreïn, etc. Chez ce peuple-là, il y a des causes pour lesquelles on peut risquer, on doit risquer sa vie.
Oui,
je pense que dans notre civilisation, cela est absent. Et c'est pour cela que nous sommes des candidats à être opprimés et à être traités n'importe comment.
Mais pour revenir au contexte, parce qu'il y a eu quand même les gens qui sont sortis. Si aujourd'hui on parle du 16, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris la décision, qui sont partis parce qu'ils dénonçaient, ils réclamaient la réouverture de la conférence souveraine, mais aussi d'autres problèmes qui étaient liés à la gestion de la chose publique à l'époque. Ce qui veut dire, quelque part, il y a eu déjà la volonté des gens qui se sont engagés. Mais aujourd'hui, si les auditeurs se rendent compte qu'on a pu oublier, qu'est-ce qui s'est passé entre 1992 et 2012 pour que les gens se rendent compte qu'on a pu oublier les victimes pendant cette période? On les a oubliés comment? C'est dans l'enseignement et c'est dans la pratique. Est-ce que c'est au niveau du pouvoir public?
Les dirigeants congolais, les hommes politiques congolais, habitués à marcher sur les cadavres de leurs compatriotes pour conquérir le pouvoir, n'ont pas intérêt, justement, à exalter et à faire mémoire des gens qui sont des victimes, justement, de la dictature et de l'oppression. Pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir et qu'on ne puisse pas leur demander des comptes chaque fois qu'ils recourent à la violence et au crime, ils font semblant d'oublier que cela a existé et que dans aucune société humaine, normale au monde, ne peut cautionner le crime, en tout cas, ne peut en faire une prime pour la conquête du pouvoir ou pour son maintien.
Mmh.
Aujourd'hui, nous avons la même chose. Vous savez que la répression a commencé. Vous savez que l'article 26 de la Constitution dit que la liberté de manifestation est garantie. Les citoyens ont le droit, quand ils le veulent, d'organiser des manifestations publiques pour revendiquer leurs droits ou pour exprimer leur opinion. Et les autorités ne doivent qu'être informées. Être informés. Ils n'ont pas le droit, les autorités politiques ne peuvent pas refuser. Ils doivent être informés. Leur travail, c'est de donner, de disponibiliser les forces de sécurité pour encadrer la manifestation afin qu'elle ne dégénère pas, parce que la liberté et les droits des uns s'arrêtent là où commence la liberté et les droits
des autres.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Voilà, il y a eu manifestation, il y a déjà eu des répressions, on a déjà lancé des gaz lacrymogènes à la paroisse Saint-Joseph, beaucoup de paroisses ont été encerclées, il y a eu même des coulounes qui ont attaqué la paroisse Saint-Augustin. Eh bien, tous ces gestes-là qui sont anti-constitutionnels, anti-démocratiques, montrent que dans notre pays, on n'a pas encore cette mentalité démocratique qui sont indispensables à l'instauration d'un état de droit.
Voilà, on va revenir à vous pour parler, parce que vous avez parlé que l'homme politique congolais, est-ce que c'est dans la généralité que l'homme politique congolais, tout homme politique congolais qui accède au pouvoir, ou qui veut exercer le pouvoir, veut l'exercer en marchant sur les cadavres? Parce qu'il y a eu quand même une évolution de la confrontation souveraine, juste en ce moment, passant par les élections, on va revenir pour en parler. Écoutons d'abord les auditeurs qui sont sur les antennes, comme Félicien qui Tisha Kinshasa, Mombo qui est à Lubumbashi, Alpha qui est à Taranga. Félicien, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Félicien. Que gardez-vous de la journée du 16 février 1992?
Le problème, c'est que ce qui est plutôt désolant, les journalistes, c'est que pendant que le peuple congolais s'est passé contre la dictature, la mal gouvernance de Mobutu, il s'était présenté notre groupe d'opposants qui venait de l'Est, croyant venir à la rescousse du peuple, alors que ceux-ci avaient une autre motivation, c'était de remplacer Mobutu et contenir la dictature. C'est ça qui fait qu'on a oublié ces gens qui se sont battus contre la dictature de Mobutu. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que on retrouve parmi ceux qui sont en train de réprimer encore le peuple qui réclame l'état de droit et la démocratie et la bonne gouvernance, ceux qui étaient du côté de Mobutu et ceux qui étaient du côté de l'opposition. Et puis, il nous fait dire, nous, que le Congo a un problème d'homme. C'est pas aujourd'hui que nous allons sortir avec cette situation. Parce que tous les dirigeants ou les politiques congolais, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et ils n'ont pas vraiment une vision pour le pays, pour l'avenir des enfants. Sinon, on ne pouvait pas trouver et les opposants d'hier, et les dictateurs d'hier ensemble, en train toujours de combattre le peuple qui réclame la bonne gouvernance et la démocratie pour l'avenir du pays.
Merci, Félicien. Vous pensez, vous, que depuis 1992, il n'y a pas eu l'évolution, parce que ceux qui étaient considérés comme dictateurs hier et opposants se retrouvent ensemble aujourd'hui. Et là, vous pensez qu'il n'y a pas eu vraiment évolution sur le plan de la lutte pour la démocratie. Merci, c'est votre point de vue. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous avons Mombo qui est à Lubumbashi au Katanga. Bonjour Mombo.
Bonjour monsieur.
En partant de souvenirs, comme on venait de le dire, hein, de 92, il y a notre ami de Kinshasa, Félicien, qui pense qu'il n'y a pas eu assez d'évolution. Nous sommes passés de la partie de la conférence sur le souverain qui était réclamée par ceux qui ont marché pendant cette période. Et aujourd'hui, en passant par deux élections, et pour lui, je pense que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Quel est votre point de vue par rapport aux souvenirs de cette journée du 16 février?
Par rapport à tout ça que nous sommes réunis du camp de Saïd, ça peut vous parler correctement. Normalement, c'est tous les peuples congolais qui se sont levés pour manifester c'était au lieu de la conférence nationale souveraine. Or, aujourd'hui, on ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule église qui veut s'accaparer du pouvoir du Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout normal. Normalement, nous aurons préféré que tous les Congolais, conscients qu'ils sont, parce que normalement, notre femme Saïd a réclamé une ouverture dans la réouverture de la conférence nationale, c'était instaurer le droit de notre Congolais. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de m'inquiéter moi personnellement, c'est que l'Église catholique.
Mombo, on a beaucoup de soucis avec votre ligne. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, on ne parvient pas vraiment sur le point de vue de Mombo, mais pour lui, il pense qu'il serait mieux aujourd'hui que tous les Congolais, si j'ai pu retenir, puissent s'approprier de cette journée, parce que c'est que vous réclamez la réouverture de la conférence, c'était pour l'ensemble de la nation congolaise, mais malheureusement, la ligne téléphonique ne nous permet pas de mieux entendre ce qu'il dit. Nous avons Alpha qui est à Kananga, au Café Occidental. Bonjour Alpha.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Alpha. Quel souvenir vous gardez de cette journée?
Monsieur le journaliste, merci tout d'abord pour la question. Je garde un souvenir de patriote courageux qui, à l'époque, avait brisé la peur pour renforcer leur courage en vue de faire face à la dictature militaire pour l'instauration de la démocratie. Mais malheureusement, nous nous réalisons qu'à la base de ces jours, le régime actuel est en train de cracher sur leur mémoire. Alors que le sang a coulé pour tous les Congolais, y compris les dirigeants actuels, qui ne veulent pas que cette journée soit commémorée comme les Congolais le souhaitent. Et pour cela, on ne peut même pas demander l'autorisation, comme on est en train de le dire, parce que c'est un problème qui concerne la nation congolaise. Donc, je peux demander encore une fois de plus afin qu'un monument soit érigé à leur mémoire pour des générations futures.
Merci Alpha, vous êtes revenu par rapport aux différentes manifestations qui devaient avoir lieu aujourd'hui pour commémorer cette journée pour la ville de Kinshasa. Oui, bien sûr, au niveau de la ville de Kinshasa, le gouverneur a dit que ceux qui avaient demandé la manifestation étaient dû aller en retard, mais ils n'avaient pas réuni toutes les conditions pour la tenue de cette manifestation. Et là, c'est ce que vous dites, qu'il ne serait pas mieux qu'on puisse interdire une manifestation pour commémorer cette journée, mais du moins qu'on ait un monument érigé en mémoire des victimes du 16 février. Merci, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Sam, vous êtes en Boujumaï, gardez la ligne. Nous allons lire le message de Moïse qui est à Kananga également. Je dis ceci, je pense que le gouvernement et le Parlement devraient reconnaître cette journée du 12 février. Antoine de Kisangani dit ceci, chers compatriotes, moi j'ai honte. 20 ans après la marche des chrétiens, la RDC a reculé en démocratie. Nous avons Gédon Mouchaba qui dit ceci, cette journée devrait être un souvenir pour tout Congolais. Je tiens à dire que la journée était bien à l'époque, malgré la conférence à chance souveraine, n'a rien donné aujourd'hui. Et aussi Samuel qui est à Lubumbashi, lui il a un point de vue contre hein, par rapport à la manifestation qui devait se tenir aujourd'hui. Il dit, d'une part, j'encourage l'annulation de manifestations qui allait se tenir aujourd'hui pour éviter que les sangs des personnes puissent couler encore. Et nous allons écouter Sam qui est en Bujumayo, Kasaï Oriental. Bonjour Sam.
Bonjour M. Thierry.
Quel est votre point de vue et votre souvenir par rapport à cette journée du 16 février? Oui.
M. Richard Mokaouka, au nom de tous les catholiques. Quand j'avais une intervention, un avis particulier, je voyais que la journée d'aujourd'hui n'a pas encore donné, la journée de la papa n'a pas encore donné sa lutte. Nous devons continuer à lutter parce que nous voyons que c'est la dictature que nous avons refusé en ce temps-là qui continue jusqu'aujourd'hui. Nous allons toujours continuer à lutter comme nous avons un pouvoir dictateur que nous avons ici, nous avons dit. Et notre lumière devait passer aujourd'hui, nous devons la servir et réciser totalement les résultats des élections du 26 novembre passé. Maintenant, on a installé, à Kinshasa, comme nous l'écoutons, on a installé les policiers, les hommes des uniformes, l'armée, qui devraient nous mettre à l'aise pour le combat, mais être à Kinshasa, là où il y a la paix. C'est une voie démocratique que nous devons manifester aujourd'hui. On devait manifester, mais les autorités ont toujours refusé. Maintenant, moi, j'ai dit que nous devons continuer à lutter pour cette journée ou pour notre démocratie. Ça, c'est notre droit. Nous devons continuer à lutter pour ça. Nous n'allons pas nous limiter parce que la journée a été déjà passée. Nous n'allons pas nous limiter comme nous n'avons pas encore eu notre résultat. Nous allons continuer à lutter pour
merci, merci Sam. Voilà, merci Sam. Vous pensez qu'on ne doit pas se limiter simplement à la journée, mais il n'y a pas eu de manifestation, vous l'avez souhaité, mais vous pensez qu'il faudrait continuer à lutter pour l'instauration de la démocratie et ne pas baisser les bras. Nous allons enfin écouter Mombo, je pense que sa ligne s'est améliorée, et puis on va revenir à notre invité en lisant aussi quelques messages des auditeurs. Mombo, ça va maintenant, vous êtes en ligne?
Ok, merci. Je disais que,
oui, allez-y.
Normalement, nous devons savoir que le mouvement du 16 février, à ce début, lors de la conférence de l'actionnement, était un mouvement national. Et que tous les peuples d'Aïrois de ce temps-là qui s'étaient levés pour qu'on ouvre la conférence nationale pour insérer la vraie démocratie, la liberté, qu'on puisse comprendre la liberté du citoyen. Or, aujourd'hui, je constate que ce sont les catholiques qui font part du mouvement. Et parmi les catholiques, nous savons très bien qu'il y a ceux-là qui sont pour le gouvernement d'aujourd'hui et ceux-là qui sont contre le gouvernement d'aujourd'hui. Alors, je me demande si ce mouvement, c'est pour le catholique opposant ou bien c'est pour le catholique sur toute l'étendue nationale. J'aurais préféré que ce mouvement, qu'aucune congrégation ne puisse s'approprier. C'est un mouvement qui nous concerne tous. Et avant qu'on déclenche un tel mouvement, il faut qu'on consulte toutes les couches de la nation, que ce soit la société civile, que ce soit les étudiants, de la bonne insurrection de la démocratie.
Voilà, Mombo, vous pensez que oui, voilà. Pour vous, vous pensez que ce ne sera pas bien que le mouvement, la revendication puisse être tellement devenir la. En fait, que cela ne devienne pas l'apanage seulement de l'Église catholique, parce qu'il y a ceux qui soutiennent le pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition. Mais on rappelle aussi que la marche du 16 février était à l'appel du comité laïque de coordination, bien sûr, au niveau de l'Église catholique. Mais vous pensez que ça ne doit pas être considéré comme l'apanage d'une seule congrégation, que toute la nation puisse s'approprier. Merci Mombo, nous allons écouter François qui est ici à Kinshasa. François, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, François, les souvenirs que vous gardez du 16 février.
Oui, je garde vraiment une date malheureuse pour le 16 février. Mais au-delà de ça, monsieur le journaliste, moi je voudrais aller peut-être analyser un peu. Moi je demande que les organisateurs de cette date-là qui ont envoyé les enfants des autres à la mort, soit aussi identifié, arrêté, ce prêtre-là qui ont organisé.
doit aussi être identifié, monsieur le journaliste. On ne fait pas chaque fois un peu sur le dos, on a peu. Mais qu'il soit aussi identifié et traduit devant les instances. Aujourd'hui aussi, ils ont voulu envoyer les enfants d'autres à la mort. L'Église catholique doit être au milieu du village. L'Église catholique doit être humiliée et nous tous nous sommes fidèles catholiques. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter le problème. On doit traiter les abbés qui ont organisé cette statue-là doivent être aussi identifiés et transmis devant les instances. Voilà un peu ma contribution.
François, vous pensez que l'Église devait être neutre, cela veut dire ne pas s'engager dans les revendications politiques, mais il fallait identifier aussi ceux qui avaient organisé la marche. Ça, c'est votre point de vue. Nous allons aussi lire les messages, parce que là, il y a le point de vue qui s'est différent. Bon, ça, c'est par rapport à ce qui devait avoir lieu comme manifestation aujourd'hui. Il y a, par exemple, Charon Junior Lokanda qui s'en allait, qui dit ceci. Je pense que la marche est annulée hein, parce qu'il y a les partis politiques qui sont au pouvoir et la CENCO qui vivent à couteau tiré à cause de la CENI. C'est pour cela qu'on a demandé que la manifestation puisse avoir lieu. Patient Biringua, qui est à Béléonore, qui vous dit ceci. D'une part, je condamne l'annulation de la marche d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il revient à l'actualité, à la marche d'aujourd'hui, d'autant plus que la Constitution nous demande seulement d'informer l'autorité en place. De ma part, il serait aussi mieux que les dirigeants de l'Église catholique associent la société civile dans cette marche pour ne pas en faire une affaire privée. Les organisateurs doivent s'assurer que les enfants ne s'infiltrent pas dans la manifestation. Fabrice Kasekere, qui dit ceci. Je condamne avec toute énergie la manière dont, avec laquelle certaines autorités traitent les Congolais. Toute la procédure de la marche a été respectée. J'ai l'impression que le gouverneur de la ville de Kinshasa a juste une pression. Nous savons que c'est le pouvoir peut arrêter un pouvoir. Pourquoi avoir peur d'une marche pacifique? Ça, c'est pour ceux qui soutiennent la marche comme aussi, mais il y en a aussi qui pensent qui ne soutiennent pas, comme Adrien qui est à Calumet au Qatar, qui dit ceci. J'aimerais savoir la cause précise de l'annulation de cette marche pacifique, si elle se tient. Quel est l'impact vraiment? Est-il nécessaire de marcher? Et pourquoi cette marche n'est pas organisée sur toute l'étendue de la République? Philippe Kalanga dit ceci. La marche d'aujourd'hui n'est pas avantageuse, car il n'y a rien de bon que l'on peut espérer en organisant une marche. Au contraire, ça va naître des troubles. Ce sont des auditeurs qui sont partagés, hein, c'est par rapport à la commémoration aujourd'hui. Merci. Nous avons Omer qui est à Mondito qui va garder la ligne. On va revenir à notre invité pour commenter cette divergence d'opinion dans les auditeurs, chez les auditeurs par rapport à la célébration de cette journée.
Parole aux auditeurs.
Oui, et Abbé Richard Mugawuga, on est parti des souvenirs que les auditeurs gardent les Congolais parce qu'ils sont qui s'expriment sur la manifestation. Mais nous sommes aussi sur le problème de France, la compréhension de la manifestation elle-même. Elle a eu lieu, il y a eu une répression, la conférence a été ouverte, les choses ont continué 20 ans après, on a passé par des élections. Mais on se rend compte dans l'opinion, quand on écoute les auditeurs, le point de vue divers sur le fond du problème. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour qu'au niveau de la nation congolaise, que ce soit au niveau des chrétiens, des non-chrétiens, que les gens puissent avoir peut-être une vision commune par rapport à cette marche et les résultats et l'objectif même qui était poursuivi par ceux qui l'avaient organisé. Parce qu'on se rend compte qu'on a des opinions, de points de vue différents. Parce qu'il y a quand même une marche 20 ans après.
Oui. Lorsque j'écoute les diverses interventions, cela m'amène à penser à cette vérité selon laquelle la démocratie n'a pas de pire ennemi que la pauvreté et l'ignorance. Et la première pauvreté d'un peuple, c'est l'ignorance. Nous avons une nation congolaise qui existe parce que nous sommes censés, nous le peuple congolais, nous être mis d'accord sur les valeurs consensuelles sur lesquelles nous voulons organiser notre vivre ensemble. Et ces valeurs consensuelles ont été consignées dans la Constitution, qui a été adoptée par référendum, c'est-à-dire par un choix de tous les citoyens. En nous dotant d'une Constitution, nous avons dit clairement ceci. Tout quiconque est Congolais, surtout tout Congolais qui veut exercer le pouvoir, doit le faire en se référant à cette constitution qui contient les valeurs consensuelles
sur lesquels nous sommes tous d'accord pour construire la nation congolaise. Et donc, lorsque quelqu'un nous réfère à la Constitution ou aux valeurs qui sont dans la Constitution, nous devons tous être d'accord parce que cela correspond à ce que nous avons fait en choisissant par référendum cette loi-là. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas comment un Congolais peut dire « Je suis contre ceux qui réclament la démocratie ». Mais nous avons choisi tous pour la démocratie. Je ne peux pas comprendre que des Congolais soient contre ceux qui exigent la bonne gouvernance. Nous avons tous choisi pour la gouvernance, la bonne gouvernance. Je ne peux pas comprendre des Congolais qui sont contre ceux qui se lèvent pour dire « Nous sommes contre la fraude, la tricherie électorale ». Je ne comprends pas comment les Congolais peuvent être contre ceux qui disent lorsque on a triché, lorsqu'on a pratiqué la corruption, que ce soit dans les élections ou dans n'importe quel autre domaine, on doit être sanctionné d'être puni. Si la CENI, comme cela a été prouvé, comme cela a été accepté par tout le monde, aussi bien par les observateurs internationaux que les observateurs nationaux, aussi bien par les pouvoirs en place, parce que le président lui-même avait parlé d'erreur, que par tous les Congolais qui ont participé à des élections chaotiques, eh bien, tout le monde devrait être d'accord que lorsqu'on a fait une faute, il faut absolument que cette faute soit sanctionnée. Sinon, nous entrons dans ce qu'on appelle la loi de la jungle, le no man's land, l'absence de droit, l'absence de la loi, le non-droit, nous entrons dans l'anarchie et le chaos. Aujourd'hui, la marche qui est organisée est une marche qui est une protestation contre ce que l'on peut appeler la fraude électorale planifiée. C'est aussi une protestation contre ceux qui auraient dû organiser ces élections de façon transparente, notamment la CENI. Qu'un Congolais puisse soutenir cela, pour moi, cela me paraît anormal, parce que normalement, ça correspond au prescrit de la Constitution dont nous sommes tous dotés et qui constitue comme notre, ce que je vais appeler notre consensus, notre dénominateur commun.
Mais alors, pour revenir, parce que je veux parler de la marche d'aujourd'hui, qui en principe a organisé la marche d'aujourd'hui au niveau de l'Église? Il y a beaucoup de structures au niveau de l'Église qui a invité les gens à marcher aujourd'hui pour permettre aux électeurs de comprendre à ces niveaux-là.
Si j'ai bonne convenance, comme vous le souvenez, il y a eu un comité qui est composé de prêtres et de laïcs qui a pris l'initiative de cette manifestation.
Mm-hmm.
Et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune société où tout le monde prend l'initiative le même jour ensemble. Il y a toujours un petit comité de personnes qui ne sont pas seulement des prêtres, mais aussi des laïcs, qui ont estimé qu'il fallait que l'on organise une marche, une manifestation, pour en rapport, en continuation, en souvenir de ce qui s'est passé le 26 février 1992, pour réclamer la démocratie, pour réclamer la transparence, pour réclamer la justice, pour réclamer la vérité, qui sont des vérités constitutionnelles, des valeurs constitutionnelles, sur lesquelles tous les Congolais sont sans cesse d'accord, parce que nous avons voté cette constitution. Deux, cette manifestation est une manifestation pacifique, et le droit de manifestation est garanti par la constitution. Ce que l'État a l'obligation de faire, c'est de respecter la Constitution, c'est-à-dire permettre la manifestation et d'en garantir le déroulement ordonné et non chaotique, si vous voulez, le déroulement normal. Réprimer, la répression est anticonstitutionnelle. Ceux qui ont pris la décision d'empêcher ou de refuser la manifestation ou violer la Constitution, et ils devraient donc normalement être punis parce qu'un pouvoir repose sur la loi. Et lorsqu'il ne respecte pas la loi, il coupe l'arbre sur lequel il se tient, il se délégitime lui-même.
Voilà.
Et donc, on aurait dû laisser cette manifestation se dérouler, et le devoir de l'État, c'est non pas seulement de l'autoriser, mais aussi de l'encadrer. C'est-à-dire d'empêcher qu'il y ait des débordements ou que ceux qui font des manifestations s'adonnent à des actes inciviques qui perturbent l'ordre public.
Oui.
C'est tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma dictatorial. En fait, ce qui s'est passé du temps de Mobutu est revenu aujourd'hui, et peut-être avec une pointe d'aggravation, parce qu'entre les deux, il y a eu des massacres terribles.
Oui, on n'a jamais sanctionné. On peut quand même relativiser, parce que l'exercice du pouvoir si on tient compte des conditions pour lesquelles les gens sont allés à la conférence souveraine, et en passant par les événements, les guerres, jusqu'aux élections et autres, peut-être on peut bien relativiser, monsieur l'abbé Charles Mouloro. Mais on va revenir pour commenter, parce qu'il faut qu'on parle des acquis de 92. On ne saura pas revenir sur cela sans pour autant jeter un coup d'œil pour voir quels sont les acquis aujourd'hui que nous avons de la manifestation des 92. Mais il y a un auditeur qui nous appelle de Namur en Belgique. On permet de pouvoir le libérer parce que souvent les lignes avec l'extérieur nous posent beaucoup de problèmes. Georges, vous êtes en ligne, bonjour. Georges, vous êtes en ligne, bonjour Georges.
Voilà, je vous dis à tous bonjour, merci de m'avoir accordé ce petit instant qui est précieux pour nous, vivant à l'étranger, devenus des enfants d'autres pays, comme dirait-on. Cela fait beaucoup, ça fait très, très, très mal. Comment je peux dire ça fait très mal? Nous avions quitté nos pays pour venir faire des études et enfin de pouvoir amener ce que nous pouvions amener. C'est-à-dire amener quoi? C'est-à-dire amener cette opportunité qui nous a été donnée dans un sens où la vie humaine est une vie à garder. C'est-à-dire les martyrs d'avant de l'indépendance et les martyrs d'aujourd'hui doivent être respectés. Respecter c'est quoi? C'est ce que M. l'abbé a dit. Le respect de l'être humain est important dans une démocratie. C'est l'être humain qui a la pensée forte. Les révolutions se sont faites en 1789 en France, c'est de la même manière. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en face? C'est, on essaye de garder tout pour soi. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe aussi en plus au Congo, c'est la tristesse, la mélancolie, la frustration. Croyez-vous qu'un peuple a besoin de ça? Je pense que c'est non. Le peuple a besoin de vivre, de souffler, et laisser au moins ces gens manifester. Ce n'est pas grave. Au contraire, il faut garantir leur sécurité. Et ce que je demanderai à nos politiques, ils viennent ici en Europe, ils viennent ici copier, ils viennent ici prendre. Tout ce qui est en Europe n'est pas toujours bien. N'est pas toujours bien. Nous sommes des Bantous. Et le Bantou avait à l'époque, même avant que nous soyons nés, avait un autre système de démocratie. C'est parler. Parler en famille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une classe politique qui n'a rien compris et qui ne comprendra jamais rien. Le bien mal acquis doit être puni. Quand quelqu'un a fait une faute, il doit être puni devant la justice. Ici, les élections ont été bafouées. Tout le monde a compris qu'il y avait une erreur. Je pense qu'il faudrait tirer les conséquences. Les membres de la CENI devraient normalement eux-mêmes démissionner. Le pouvoir en place qui a été élu devrait essayer de consulter les autres pour pouvoir trouver une solution à cette crise. C'est une crise pathétique pour l'Occidental. C'est pathétique. Nous ne sommes pas respectés, nous ne sommes plus reconnus, nous ne sommes rien. Nous qui sommes des enfants d'aujourd'hui, qui sont devenus ceux des autres pays, malgré que nous avons nos origines, nous tenons à nos origines, et ben, je vous assure, nous ne sommes pas, nous sommes plutôt plus bas que terre. Nous ne sommes pas respectés parce que les gens qui dirigent notre pays et qui continuent à vouloir diriger le pays n'ont rien compris à ce qu'on appelle l'amour du pays. L'amour du pays, c'est rendre des comptes après 5 ans. Voilà, l'élection 2012 en France va se passer ici. Monsieur Nicolas Sarkozy va rendre le compte devant le peuple français. Il aura un adversaire devant lui. Ce n'est pas une bataille avec des armes. Ce n'est pas une bataille
Georges. Merci Georges, on vous a suivi. Vous pensez qu'il faut recourir au dialogue. Mais vous avez insisté beaucoup sur garantir la sécurité de manifestants, qu'il fallait laisser les gens manifester, garantir leur sécurité. Et merci beaucoup. Georges Omer est à mon édito, Aaron est à Kinshasa. On va vous écouter pour revenir à notre invité.
Parole aux auditeurs.
Omer, vous êtes à mon édito, Kassa Oriental, bonjour.
Bonjour Radio Capi,
on tente déjà vers la fin de l'émission, votre point de vue par rapport au souvenir du 16 février.
Le souvenir du 16 février, mauvais souvenir pour moi. Mauvais souvenir, pourquoi? Parce que les sangs du peuple congolais étaient versés. Après que les sangs soient versés pour que la conférence nationale souveraine est très tendre. Nous avons dit que la conférence nationale souveraine est tendre, bien sûr, mais les fruits de la conférence nationale souveraine ont été bafoués, les fruits de la conférence nationale souveraine ont été jetés à la poubelle. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas vu les effets de la conférence nationale souveraine répandre ses valeurs pour remettre le Congo qui était déjà par terre pour redorer le blason qui était déjà terminé. Nous regrettons que pour Congo, vraiment, ayons l'amour de ce pays. Voilà pourquoi j'interviens énergiquement dans cette émission. Si franchement nous aimons le Congo, si franchement le Congo nous appartient, si franchement nous sommes réellement congolais, prouvons réellement l'amour de ce pays. Pourquoi les palabres? Pourquoi les tiraillements? Pourquoi les femmes des Congolais sont en train de se
voilà.
Pourquoi les politiques ne peuvent pas écouter le peuple? On va tuer tout le monde, on va rester dirigé qui? Pourquoi on élimine tout le monde et que la terre reste maintenant on l'exploite comme on le veut?
Merci, Omer. Merci, Omer. On a suivi vraiment votre souci électrique que vous avez lancé, mais vous avez insisté pour dire qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas les effets des fruits de la conférence nationale souveraine 20 ans après. Nous allons écouter rapidement Aaron Kétiché Kinshasa. Aaron, là, on n'a qu'une minute parce qu'on va terminer l'émission. Aaron, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
On n'a qu'une minute rapidement, on vous écoute par rapport au souvenir de ce jour, oui.
Oui, je regrette personnellement déchet par rapport à la marche d'aujourd'hui. L'objectif poursuivi par l'Église, beaucoup de chefs à l'Église catholique, parce que son objectif est vraiment juste. Moi, je me pose la question, mais pourquoi les autorités nous ont demandé de voter s'ils ne veulent pas respecter alors notre voix? Parce que l'objectif poursuivi est de remettre les Congolais dans ses droits. Personnellement, j'avais vécu l'événement du 16 février, c'est parmi les participants. J'ai vu nos frères et les sœurs congolais qui sont tombés sous les coups de balle à ma présence.
Mmh.
Je suis plein d'amertume quand je vois que les mêmes événements qui sont passés en 2012, nous les vivons encore aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup regrettable.
Merci, merci Aaron. On termine avec vous. Lazare, vous êtes à Kikwit. Hein? Aaron pense que les circonstances de 92 sont les mêmes en 2012. Il les regrette beaucoup. Il fallait laisser les gens manifester. On vous écoute rapidement, Lazare, parce qu'on va terminer l'émission. Excusez-moi, Lazare. On vous écoute rapidement.
Merci bien. Moi, je retiens deux leçons. La première, on peut être fort un jour, mais on ne peut pas être fort toujours.
Mmh.
Dans cette ville, les personnalités l'avaient été qualifiées même de Terminator. Mais aujourd'hui, l'histoire a donné d'autres aspects de problème. Et vous savez, la deuxième, c'est la signification même de la marche. C'est la détermination du religieux de donner réponse au destin du pays contre les dérives du politique. Malgré que celui-ci utilise souvent l'image de l'autre comme stratégie de faire accepter les résultats de ses objectifs. C'est ainsi que, en ce moment, vous aurez à constater que ce soit la conférence nationale souveraine, le Parlement qui s'en est suivi, le Parlement a pris son crédit, la CEI, on l'a tenu aujourd'hui, qui dirige les religieux, mais dont on emploie tellement l'image.
Merci, merci. Merci Lazare, excusez-nous, vous êtes tellement nombreux sur les standards, même le SMS, on ne sait pas exploiter tous les avis dans cette émission, on n'a pas assez d'espace pour ça, mais dis-moi, nous vous disons merci, vous avez été très nombreux, nous allons terminer avec le message de Ilondia et l'autre de Kalemi. Je pense que le gouverneur de Kinshasa devrait laisser les manifestants s'exprimer, car c'est un droit reconnu par la Constitution, nous regrettons la manière avec laquelle le pouvoir en place continue à régiter l'organisation des manifestations politiques des revendications. Cette façon de diriger me fait peur, au risque qu'un jour le peuple congolais se révolte contre les pouvoirs comme ailleurs. Jean-Charles Debarak a dit ceci, je pense qu'à travers les manifestations, nous pouvons faire voir à l'opinion internationale que les choses n'avancent pas et que la démocratie piétine dans notre pays. Des hauts d'écologie, nous n'avons pas besoin de marcher pour commémorer la démocratie en cette période tendue. Ça serait tomber dans le piège des opposants habitués aux villes mortes et inutiles. Et je pense que l'organisation des cultes ou des messes est suffisante pour honorer cette journée. Alfred Dekin dit ceci, nous devons prier aujourd'hui pour nos martyrs et enfants. Isaac Adebounia, la marche chez nous vire souvent en catastrophe, même si elle est pacifique. Je pense qu'il faut éviter les victimes de plus. Je constate que les organisateurs ne subissent pas, comme les manifestants qui suivent ceux qui sont en train d'organiser les manifestations. Nous avons l'impression qu'il y a une division au sein de l'Église catholique, parce qu'il y en a qui pensent que la marche est nécessaire, les autres ne soutiennent pas la marche. On revient à vous, avec Richard Mugaruka, parce qu'on va terminer cette émission. Nous avons écouté beaucoup de personnes, nous avons ramassé d'une manière globale les points de vue des uns et des autres, que ce soit par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, que ce soit par rapport à ce qui s'était passé. Mais en conclusion, sans verser dans l'extrémisme pour nous tous, hein, quels sont aujourd'hui les acquis de la marche des 92? C'est par là aussi que vous allez profiter pour conclure cette émission. Nous avons, je crois, bien 3 minutes hein, pour terminer cette émission. Les acquis et la conclusion.
Merci.
La fraude, qu'elle soit électorale ou autre, et la répression sont contraires à la démocratie et aux lois de la nation. Par conséquent, le pouvoir a le devoir de réprimer la fraude et la corruption et de faciliter l'exercice par le peuple de ses libertés fondamentales, et notamment la liberté de manifestation et la liberté d'expression. Tout autre comportement est antidémocratique, anticonstitutionnel et donc dictatorial, et doit être condamné et dénoncé par le peuple. C'est aussi une obligation constitutionnelle, c'est aussi une obligation démocratique. Aujourd'hui, dans notre pays, on a l'impression que le pouvoir ayant été conquis par la fraude et par la force, voudrait se maintenir par les mêmes moyens, c'est-à-dire par la fraude et par la force. Or, la fraude et la force sont anticonstitutionnelles et par conséquent, ils ne pourront pas donner lieu à la légitimité du pouvoir. Nous risquons d'aller vers l'ingouvernabilité du pays. Il faudra absolument corriger les erreurs si l'on veut aller de l'avant. Merci. On ne peut pas construire un pays sur des erreurs non corrigées.
Merci beaucoup, Abbé Richard Mugaruka, d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir commenté ce sujet ensemble avec les auditeurs autour de la commémoration de la marche du 16 février.
Allô? Allô? Oui. Tu ne réponds pas?
On va se retrouver demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Les nouveaux élus, leurs mandats vont être validés pour les prochaines 5 années. On se retrouve avec vous demain vendredi pour en parler. Et la question, c'est quelles sont vos attentes hein, pour cette nouvelle Assemblée nationale? Est-ce que je vois l'adresse pa@radiotapi.net? Merci à Marie-Chantal Lumba, Willy Akonda pour la réalisation de cette émission mise en monde par Alain Boy. Nicole Ngaker a assuré la supervision. Pierre Lamy, je vous dis au revoir. Et surtout, n'oubliez pas que vous allez la retrouver sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h30 heure de Kinshasa. Au revoir.